Chapitre 19. Des vœux. Très mal dans sa peau, Loyal regardait Ninevé s'éloigner d'un côté du couloir, tandis que Vérine filait dans l'autre direction. Ces deux femmes lui arrivaient à la taille, certes, mais elles étaient des Aes Sedai. La gorge nouée, il dut lutter pour trouver le courage de demander à l'une ou à l'autre de l'accompagner. Lutter si longtemps que toutes deux furent hors de vue lorsque les mots sortirent enfin de sa bouche. Agrandi au fil des ans, sans logique architecturale bien précise, le manoir regorgeait de coins et de recoins, et ses couloirs se croisaient souvent selon des angles bizarres. Loyal aurait vraiment aimé avoir une Aes Sedai à ses côtés pour faire face à sa mère. Même Katswane, alors que sa façon de houspiller sans cesse Rand le mettait mal à l'aise. Tôt ou tard, le dragon réincarné exploserait. Rand n'était plus le jeune homme rencontré à Kaemlyn, ni même celui que Loyal avait laissé à Caerien. Désormais, autour de lui, les gens étaient tristes et sombres, comme s'ils avançaient sur un sol accidenté constellé d'empreintes de pattes de lion. Avec Rand à l'intérieur, la demeure entière avait quelque chose d'une jungle hostile. En face de Loyal, une servante aux cheveux gris lestée d'un panier à linge sursauta, secoua la tête, marmonna quelque chose entre ses dents, esquissa une révérence et continua son chemin. Avant de croiser l'augier, elle fit un pas de côté, comme pour contourner quelque chose ou quelqu'un. Loyal étudia l'obstacle invisible, puis se gratta la tête. Au fond, il ne pouvait peut-être voir que les augiers morts. Cela dit, il s'en passerait très bien. Savoir que les défunts humains étaient arrachés au repos se révélait déjà assez triste. Découvrir que les augiers subissaient le même sort risquerait de lui briser le cœur. Mais les spectres d'augiers, très probablement, apparaîtraient dans les sanctuaires et nulle part ailleurs. En revanche, Loyal aurait été curieux de voir une ville se volatiliser. Pas une vraie cité, mais une agglomération aussi morte que les fantômes que les humains prétendaient croiser. Avant la disparition, il aurait pu arpenter les rues et découvrir à quoi ressemblaient les gens au temps de la guerre des Cent Années, voire de celle des Trollocs. En tout cas, c'était ce que disait Vérine, et elle semblait en savoir long sur le sujet. Un élément de plus à ajouter dans son livre. Un sacré bon livre, voilà ce que ça serait. Tout en se grattant la barbe, dessous ça démangeait affreusement, Logier rectifia mentalement son erreur. Ça aurait été un sacré bon livre. Rester planté dans le couloir était une façon de se défiler qui ne conduirait à rien. Comme le disait le vieux proverbe, différer l'étalage des broussailles, c'est le meilleur moyen d'y trouver des lianes étrangleuses. Sauf que là, Loyal aurait juré que la liane s'enroulait autour de son cou, pas d'un tronc d'arbre. Le souffle court, il fit demi-tour et suivit la servante jusqu'au large escalier qui menait au quartier des augiers. Placé à hauteur d'épaule de cette femme, deux rampes solides offraient un soutien fiable. Dans les escaliers normaux, Loyal osait à peine toucher à la main courante, quand il craignait de la briser. Se dressant au milieu des marches, la rampe de gauche les divisait. Deux tiers taillés pour les augiers et un pour les humains. Très ingénieux, ça. Selon la façon de compter des humains, la servante était vieille. Pourtant, elle prit rapidement de l'avance sur Loyal. Quand il atteignit le palier, elle était déjà loin dans le couloir. À l'évidence, elle apportait son panier, plein de serviettes, semblait-il, aux trois invités. Très vraisemblablement, avant de converser, ceux-ci préféraient s'être séchés. En tout cas, Loyal leur suggérait cette option. Un moyen de gagner du temps pour réfléchir. Hélas, son cerveau fonctionnait aussi lentement que ses pieds, qui lui paraissaient collés au sol. Dans ce couloir conçu à l'échelle des augiers, on trouvait six chambres à leur taille. Il fallait y ajouter un cagibi, une salle de bain équipée d'une baignoire géante et un grand salon. Cette partie du manoir, très ancienne, devait avoir près de 500 ans. Pour un vieil augier, ça représentait une vie. Pour les humains, ça couvrait plusieurs générations. À part les Aes Sedai, ils vivaient si peu de temps. Voilà pourquoi, sans doute, ils voletaient sans cesse partout comme des colibris. Sans doute, oui, mais pas à coup sûr. Les Aes Sedai aussi pouvaient s'agiter frénétiquement. Une énigme, ça. Sur la porte du salon, on avait sculpté un grand arbre. Pas l'œuvre d'un augier, mais assez bien réalisé et reconnaissable au premier coup d'œil. S'immobilisant, Loyal tira sur sa redingote, se coiffa avec les doigts et regretta de ne pas avoir pu cirer ses bottes. Sur un poignet, il avait une tache d'encre, mais il ne pourrait rien y faire, faute de temps. Katswane parlait d'or. Kovril n'était pas connu pour sa patience. Mais comment la sœur savait-elle ça? Pour parler ainsi, connaissait-elle Kovril? Fille d'Ella, fille de Sung, Kovril était une célèbre oratrice, mais il n'aurait pas cru qu'on la connaissait à l'extérieur. Par la lumière, il en haletait d'angoisse. Tentant de se contrôler, Loyal entra. Même ici, tous les gonds grinçaient. Quand il leur avait demandé de quoi les huiler, les serviteurs l'avaient regardé comme s'ils perdaient la tête, car c'était leur travail. Certes, mais il ne s'en était toujours pas occupé. Le salon au haut plafond et aux murs lambrissés était très grand. Les sièges sculptés de lianes, les guéridons assortis et les lampes en fer forgé étaient tous à la bonne taille pour des ogiers. À part une bibliothèque lestée de très vieux ouvrages que Loyal avait déjà tous lus et une coupe en bois chanté, rien n'était sorti des mains d'un ogier. Une très belle pièce, cette coupe. Loyal aurait aimé savoir qui l'avait chantée, mais elle était trop vieille pour qu'il la prenne en chantant lui-même. Au mieux, il obtiendrait un lointain écho. S'il n'était pas ogier, l'ébéniste avait séjourné un moment dans un sanctuaire, et ses meubles auraient été à leur place dans n'importe quelle demeure de bâtisseur. Sinon, la pièce ne ressemblait pas à celle qu'on trouvait dans un sanctuaire, mais les ancêtres du seigneur Algarine avaient quand même fait un gros effort pour mettre à l'aise leurs invités. Kovril se tenait devant une des deux cheminées en briques. Une femme au visage dur, pour l'instant occupée à sécher sa lourde jupe en l'exposant à la chaleur des flammes. En voyant que sa mère était moins trempée qu'il l'aurait cru, Loyal ne put retenir un soupir de soulagement. Pourtant, ça aurait ajouté du poids à sa suggestion, au sujet du séchage. Mais les manteaux imperméables avaient joué leur rôle, même imparfaitement. Sans doute parce qu'ils s'étaient révélés moins étanches avec le passage du temps. Une affaire d'huile qui disparaissait. Du coup, Kovril serait peut-être de meilleure humeur que prévu. Sa redingote sombre mouillée seulement par endroits, l'ancien Aman, ses cheveux blancs brillants d'humidité, étudiait une des haches accrochées sur les murs. La hampe, nota Loyal, était au moins aussi longue qu'il était haut. Datant des guerres des Trollocs, voire de plus tôt, il y avait deux armes de ce genre, leurs tranchants incrustés d'or et d'argent. À côté, on avait accroché deux serpettes aux très longs manches. Aiguisées d'un côté du tranchant et dotées de dents de scie de l'autre, ces outils avaient toujours de longs manches, mais les incrustations et les pompons rouges indiquaient que ces deux-là étaient des armes. Un choix de décoration un rien provocateur, dans une pièce où on était censé lire, converser ou méditer. Quittant sa mère et Aman, le regard de Loyal vagabonda jusqu'à l'autre cheminée, où Erit, petite et d'apparence fragile, faisait sécher sa propre jupe. La bouche droite, le nez court et bien arrondi, les yeux de l'exacte couleur d'une cosse de pois mûr, c'était une vraie beauté. Sans parler des oreilles qui pointaient hors de sa longue chevelure noire. De vraies merveilles à l'arrondi parfait, avec des touffes de poils qui faisaient penser à du duvet. Les plus troublantes oreilles que Loyal ait jamais vues. Bien sûr, il n'aurait pas eu l'indélicatesse de le dire. Ces choses-là, on les gardait pour soi. Quand Erit lui sourit, Loyal sentit ses propres oreilles frémir d'émotion et d'embarras. Enfin, elle n'avait pas pu deviner ses pensées déplacées. Vraiment ? Selon Rand, les femmes en étaient parfois capables, mais il parlait des humaines.
« Te voilà enfin !»
dit Kovril, les poings plaqués sur les hanches. Aucun sourire à attendre d'elle. Front plissé, regard sévère, dents serrées. Si c'était ça, ne pas être de trop mauvaise humeur, elle aurait tout aussi bien pu se tremper jusqu'aux os.
« Tu m'en as fait parcourir du chemin »
maugréa-t-elle.
« Mais je te tiens, et je ne te laisserai plus filer. C'est quoi sous ton nez et sur ton menton ? Tu vas me raser ça vite fait, et ne fais pas de grimace à ta mère, fils Loyal !»
Lissant son embryon de moustache, Loyal essaya de lisser aussi son expression. Quand une mère vous donnait du fils, ce n'était pas le moment de rigoler. Peut-être, mais ça l'agaçait au plus haut point. Il rêvait d'une moustache et d'une barbe. À son âge, certains auraient trouvé ça prétentieux, mais il s'en fichait.
« Un sacré chemin, oui !»
fit l'ancien Aman, peu amène, en remettant la hache sur ses supports. Lui, il arborait une longue moustache dont les pointes dépassaient de son menton et une barbe étroite qui tombait sur sa poitrine. Bien sûr, il avait plus de 300 ans, mais ça semblait injuste quand même.
« Une longue poursuite. Ayant entendu dire que tu y étais, nous sommes allés à Kairien, mais tu avais levé le camp. Après une étape au sanctuaire Tsofu, nous sommes allés à pied jusqu'à Kemlin, où le jeune Altor nous a appris que tu étais à deux rivières. Il nous y a conduits, mais tu avais encore filé, vers Kemlin apparemment. »
Aman arqua les sourcils, jusqu'à ce qu'il touche presque la ligne de ses cheveux.
« À ce moment, je me suis demandé si nous jouions à Attrape-moi si tu peux. »«
Ah, chant des mondes !»
enchaîna Erit de sa voix musicale.
« Les gens nous ont parlé de ton héroïsme. »
Les oreilles frémissantes et les mains serrant le devant de sa jupe, elle semblait avoir envie de sauter de joie.
Ils ont évoqué ton combat contre les Trollocs et les Myrdraal, puis ta sortie audacieuse pour aller, tout seul, sceller la pierre portail de Menetheren. Ainsi, plus aucun envahisseur ne passera.
« Je n'ai pas agi seul, »
rectifia Loyal, très gêné. À force de frémir, ses oreilles risquaient de se détacher de son crâne.
« Gaol était avec moi. Nous avons réussi ensemble. Sans lui, je n'aurais jamais atteint la pierre portail. »
Erith plissa son joli nez, comme si les exploits de la Yael ne lui faisaient ni chaud ni froid. Kovril eut un ricanement dédaigneux. Parfaitement rigide, ses oreilles exprimaient un immense déplaisir.
« Balivernes, livrer des batailles, te mettre en danger, parier follement, des idioties tout ça. Eh bien, c'est terminé !»
Aman se racla la gorge, les oreilles vibrantes d'indignation. Les mains croisées dans le dos, il ne cachait pas sa colère. Comme de juste, il détestait qu'on l'interrompe.
« Du coup, retour à Kemlin, où tu n'étais plus, puis à Kyrien, dont tu étais de nouveau parti. »
« Non sans t'être mis d'abord en danger !»
grogna Kovril, un index pointé sur son fils.
« Es-tu inconscient ?»«
Au puits de Doumaï !»
susurra Erith.
« Les Aiel ont admiré ton courage !»
Sous leurs longs cils, les yeux de la jeune beauté brillaient d'admiration. La gorge serrée, Loyal fut incapable de détourner le regard de ces deux puits sans fond. Il aurait dû, selon les convenances, mais comment les respecter quand on vivait une telle expérience ?«
À Kyrien, ta mère a décidé qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps loin de la Grande Souche. Ne me demande pas pourquoi, puisque aucune décision ne sera prise avant un an ou deux. Mais nous sommes retournés au sanctuaire Shanktai, avec l'espoir de te trouver plus tard. »
L'ancien Aman avait débité sa tirade à toute vitesse, et en défiant les deux femmes de l'interrompre encore. D'outrage, sa moustache et sa barbe en ondulaient. Kovril ricana de nouveau.
« J'entends qu'on en arrive à une décision très vite, un mois ou deux, au maximum. Sinon, je n'aurais jamais interrompu nos recherches, même provisoirement. À présent que j'ai trouvé Loyal, nous pouvons en finir et repartir sans perdre de temps. »
S'avisant que l'ancien Aman fulminait, Kovril corrigea le tir.
« Pardon, ancien Aman, je voulais dire, me feriez-vous la grâce de présider la cérémonie ?»«
Je crois pouvoir accéder à ta requête, oui. »
marmonna Aman, maussade. Très maussade, même. Quand Loyal entendait ce ton chez son professeur, surtout lorsque ses oreilles s'inclinaient en arrière, il savait qu'il venait de faire une grosse bêtise. Dans cet état, Aman était capable de lancer sa craie sur un élève.
« Comme j'ai abandonné mes étudiants et la possibilité d'intervenir devant la Grande Souche, tout ça pour t'accompagner dans une folle quête, je veux bien faire ce que tu me demandes. Mais tu es très jeune, Erith. »«
Elle a plus de 80 ans !»
rappela Kovril. Soit largement l'âge de se marier.
« Sa mère et moi avons signé un accord. Tu étais présent quand nous avons rédigé la promesse et fixé la dot de Loyal. »
Les oreilles de l'ancien s'inclinèrent un peu plus et ses épaules se tendirent, comme s'il serrait très fort les mains dans son dos. Les yeux rivés sur Erith, il reprit.
« Je sais que tu veux épouser Loyal, mais es-tu vraiment prête? Prendre un époux, c'est assumer une lourde responsabilité. »
Loyal aurait aimé qu'on lui pose aussi cette question. Mais ce n'était pas prévu par les coutumes. Les deux mères avaient conclu un accord, et seule Erith pouvait le dénoncer, si elle le désirait. Avait-il envie qu'elle le fasse? Eh bien, il y avait son livre qui l'obsédait, et Erith qui l'obsédait tout autant. La future mariée prit un air très grave.
« Les vêtements que je tisse se vendent bien, et je suis prête à acheter un deuxième métier, puis à prendre une apprentie. Mais ce n'est pas à ça que vous pensez, je suppose. Oui. Je suis disposée à m'occuper d'un mari. »
Erith eut un sourire radieux.
Surtout quand il a de si merveilleux sourcils.
Les oreilles de Loyal frémirent, comme celles de l'ancien, mais pas pour la même raison. Entre elles, à ce qu'on disait, les femmes parlaient très librement. Mais en règle générale, elles s'efforçaient de ne pas embarrasser les hommes. En règle générale. Les oreilles de Kovril en tremblaient de jubilation.
C'est une affaire sérieuse, Erith.
Rappela Aman.
Bien, si tu es sûr de toi, prends les mains de Loyal.
Sans hésiter, Erith vint se camper devant son promis, lui sourit et lui prit les mains. Contre sa peau, Loyal eut le sentiment que celle d'Erith était brûlante, alors que la sienne semblait glacée. Ça allait donc arriver? Sa fuite s'arrêterait là?
Erith, fille d'Iva, fille d'Alar,
dit Aman, une main au-dessus de la tête de chaque futur époux.
« Veux-tu prendre pour mari Loyal, fils d'Arendt, fils de Alan? Jures-tu, au nom de la lumière et de l'arbre, de le chérir, vénérer et aimer jusqu'à la fin de ses jours? Promets-tu de prendre soin de lui, de subvenir à ses besoins et de guider ses pas sur le chemin qu'il doit suivre? »
« Au nom de la lumière et de l'arbre, je le jure. »
La voix d'Erith était ferme et limpide, son sourire devenu assez large pour lui manger le visage.
« Loyal, fils d'Arendt, fils de Alan, acceptes-tu de prendre pour épouse Erith, fille d'Iva, fille d'Alar ? Jures-tu, au nom de la lumière et de l'arbre, de la chérir, vénérer et aimer jusqu'à la fin de ses jours ? Promets-tu de prendre soin d'elle et de suivre à la lettre ses conseils ?»
Loyal prit une grande inspiration. Désormais, ses oreilles tremblaient comme des feuilles. Erith, il voulait l'épouser, et ça ne datait pas d'hier.
« Au nom de la lumière et de l'arbre, je le jure. Alors, au nom de la lumière et de l'arbre, je vous déclare mari et femme. Puisse la bénédiction de la lumière et de l'arbre vous accompagner à jamais. »
Loyal baissa les yeux sur sa femme. Sa femme! Levant une main, Erith lui frôla la moustache du bout des doigts. Enfin, l'embryon de moustache.
« Tu es très beau, et je pense qu'une moustache t'ira très bien. Une barbe aussi.
Absurde !»
lâcha Kovril. Spectacle incroyable, elle se tamponnait les yeux avec un mouchoir. Elle, émue.
« Il est beaucoup trop jeune pour ça »
maugréa-t-elle. Un instant, Loyal eut l'impression que les oreilles d'Erith s'inclinaient en arrière. Mais ce devait être un tour de son imagination. Avec elle, il avait eu de nombreuses conversations. Elle adorait parler, même si, à y réfléchir, elle passait le plus clair de son temps à écouter. Mais le peu qu'elle disait était toujours très pertinent. Et il aurait parié qu'elle n'avait absolument pas mauvais caractère. De toute façon, il était trop tard pour s'en soucier. Posant ses mains sur le bras de Loyal, Erith se dressa sur la pointe des pieds. Selon le rituel, son mari se pencha pour que leur nez entre en contact. En principe, il fallait simplement qu'ils se frôlent. Là, ils se touchèrent plus longtemps qu'il était convenable en présence de l'ancien Aman et de Kovril. Mais comment penser aux témoins quand on vivait une expérience si exaltante ? Sentir l'odeur de sa femme tandis qu'elle humait la vôtre, et la douceur de son nez contre le vôtre, pure extase. Glissant une main sur la nuque de son épouse, Loyal, de justesse, eut la présence d'esprit de ne pas lui caresser l'oreille. Ne reculant devant aucune audace, Erith, elle, frôla du bout des doigts une touffe de poils. Après un très long moment, les deux époux s'avisèrent qu'on parlait autour d'eux.
« Il pleut encore, Kovril. Repartir, dis-tu ? Alors que nous avons un toit sur la tête et l'occasion de dormir dans de vrais lits pour une fois. Je refuse. Cette nuit, je ne me coucherai pas par terre, dans une grange ou, pire encore, dans un lit dont mes jambes dépassent à partir des genoux. À certains moments, j'ai été tenté de décliner les offres d'hospitalité, et pas courtoisement.
« Si tu insistes, »
grogna Kovril.
« Mais dans ce cas, départ dès l'aube. Pas question de perdre une heure de plus que le strict nécessaire. Le livre des translations doit être ouvert aussi vite que possible. »
Épouvanté, Loyal se redressa, brisant le délicieux contact avec le nez d'Erith.
« C'est de ça que débat la grande souche. Il ne faut pas le faire, surtout maintenant. »«
Au bout du compte, »
dit Kovril,
« nous devons quitter ce monde afin de pouvoir y revenir quand la roue aura tourné. »
Elle revint devant une cheminée pour sécher sa jupe.
« C'est écrit. Maintenant, comme tu dis, est au contraire le moment idéal, et il ne faut pas traîner. »«
C'est votre point de vue, ancien Aman ?»
demanda Loyal.
« Pas du tout, mon garçon. Avant notre départ, j'ai tenu un discours de 3 heures qui, je l'espère, aura orienté quelques esprits dans la bonne direction. »
L'ancien saisit une carafe d'infusion, remplit un gobelet, mais ne but pas tout de suite.
« L'intervention de ta mère a eu plus d'influence. J'en ai peur. Elle connaîtra peut-être la décision dans quelques mois, comme elle l'a dit. »
Erith remplit un gobelet pour Kovril, puis pour Loyal et elle-même. Les oreilles du jeune marié en frémirent d'embarras. Ça aurait été à lui de le faire. Pour être un bon époux, il lui restait bien des choses à apprendre, mais ça, il le savait déjà.
« Je voudrais m'adresser à la souche, » dit-il amer.
« Tu parais impatient, Marie, »
fit Erith. « Marie ?» Erith ne plaisantait pas. C'est presque aussi mauvais que fils loyal.
« Et que lui dirais-tu à la souche ?»«
Erith, je ne veux pas qu'il se ridiculise, »
dit Kovril, avant que son fils ait pu ouvrir la bouche.
« Loyal écrit bien, et selon l'ancien Aman, il a tout pour être un jour un érudit. Mais en public, même devant 100 personnes seulement, il perd tous ses moyens. En plus, c'est encore un gamin. »
L'ancien Aman avait dit ça. Les oreilles de Loyal en tremblèrent, et il se demanda si elle cesserait un jour.
« Tout homme marié peut s'adresser à la souche, »
affirma Erith. Pas de doute, cette fois, ses oreilles étaient bien inclinées en arrière.
« Mère Kovril, veux-tu bien me laisser gérer mon époux comme je l'entends ?
Kovril ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les sourcils arqués, elle semblait frappée de stupeur. Loyal ne l'avait jamais vue ainsi. Pourtant, elle aurait dû s'y attendre. L'épouse passait avant la mère. C'était comme ça depuis toujours.
« Alors, Marie, que dirais-tu ? »
Loyal n'était pas impatient, mais désespéré. Pour se donner du courage, il but une gorgée d'infusion, mais sa bouche resta aussi sèche qu'avant. Kovril avait raison. En public, il oubliait ce qu'il avait l'intention de dire et se perdait en digressions. Parfois, même devant un auditoire réduit, il dérapait carrément. Juste un peu, enfin, pas beaucoup. Le protocole, il le connaissait. Un gosse de 50 ans le maîtrisait, mais impossible de former les mots. Son trio d'auditeurs n'était pas composé de n'importe qui. Sa mère était une oratrice célèbre, et Aman aussi, sans même préciser que c'était un ancien. Enfin, il y avait Erit. Devant sa femme, un homme ne voulait pas paraître idiot. Tournant le dos aux autres ogiers, Loyal se campa devant une fenêtre et fit tourner le gobelet bleu entre ses mains. La fenêtre était à la bonne taille, mais pas les carreaux, aussi petits que ceux des pièces d'en bas. Dehors, un crachin remplaçait l'averse. À travers les bulles du verre, Loyal aperçut les arbres dans le lointain, des pins, des saules et quelques chênes. Les employés d'Algarine s'occupaient bien de la forêt, éliminant par exemple les feuilles mortes pour ne pas alimenter les incendies. Avec le feu, il fallait toujours être prudent. Les mots viendraient plus facilement, maintenant qu'il ne voyait plus les autres. Devait-il commencer par les langueurs? S'ils devaient tous mourir d'ici à quelques années, pouvait-il prendre le risque de partir? Non, cette question avait dû être posée dès le début, et on y avait sûrement apporté les bonnes réponses. Sinon, la souche aurait été bouclée en moins d'un an. Lumière. S'il devait vraiment y parler. Un instant, il imagina la foule massée autour de lui. Des centaines d'hommes et de femmes attendant ses propos, des milliers peut-être. Affolé, sa langue tenta de se coller à son palais. Clignant des yeux, il vit qu'il n'y avait que des carreaux imparfaits devant lui. Il devait le faire. S'il n'était pas très courageux, contrairement à ce que pensait Erit, il en avait appris long sur la bravoure en observant les humains. Si puissante que fût la tempête, il ne lâchait jamais rien, même quand c'était sans espoir. Et leur courage désespéré leur donnait la force de lutter et de vaincre. Soudain, Loyal sut ce qu'il devait dire.
« Pendant la guerre des ténèbres, nous ne nous sommes pas cachés dans nos sanctuaires, priant pour qu'aucun Trolloc ni Myrdraal n'ait l'idée d'y entrer. Nous n'avons pas non plus ouvert le livre des translations pour ficher le camp. Aux côtés des humains, nous avons affronté les ténèbres. Pendant les guerres des Trollocs, même chose. Au moment les plus noirs de notre histoire, quand tout semblait perdu, nous avons toujours résisté aux ténèbres.
Jusqu'à la guerre des cent années, dit Kovril, où nous avons appris à ne plus fourrer le nez dans les affaires des humains.
Les interruptions de ce genre étaient autorisées. À n'importe quel moment, un discours pouvait se transformer en débat, sauf quand on parvenait à fasciner l'auditoire. Une fois, Kovril avait parlé du lever du soleil à la tombée de la nuit, sans qu'on lui coupe la parole, alors qu'elle défendait une position très impopulaire. Le lendemain, personne ne s'était dressé pour la contredire. Mais Loyal ne savait pas faire de belles phrases. Son seul talent, c'était la sincérité. Il resta face à la fenêtre.
La guerre des cent années ne concernait que les humains. La lutte contre les ténèbres, ça nous regarde. Quand il s'est agi de combattre le ténébreux, nous avons toujours adapté de longs manches aux tranchants de nos haches. Dans un an, ou cinq, ou dix, nous ouvrirons peut-être le livre des translations. Si nous le faisons maintenant, il sera impossible de fuir en toute sécurité. Darmon Gaidon approche, et son issue n'affectera pas que ce monde. Tous seront touchés. Quand des flammes menacent les arbres, prenons-nous nos jambes à notre cou en espérant que l'incendie ne nous poursuivra pas? Non, nous luttons. Aujourd'hui, les ténèbres se propagent comme un incendie, et nous n'avons pas le droit de détaler.
Entre les arbres, dans le lointain, quelque chose bougeait. Un troupeau? De très grande taille, alors.
Pas mauvais du tout, dit Kovril. Trop direct pour avoir de l'impact devant une souche, et plus encore la grande souche. Mais pas si mal que ça. Continue.
Des Trollocs,
souffla Loyal. En guise de bétail, c'était des Trollocs par milliers, en cotte de maille à pointe, leur épée incurvée ou leur lance fourchue brandie. Certains portaient même des torches. Une marée de Trollocs dans toutes les directions. Des milliers? Non, des dizaines de milliers. Erit vint se placer près de lui et écarquilla les yeux.
« Une horde, Loyal, allons-nous tous mourir ?»
La jeune mariée ne semblait pas terrorisée, mais excitée.
« Pas si on avertit Rand et les autres. »
Loyal fonça vers la porte. Seuls les Ashaman et les Aes Sedai pouvaient les sauver à présent.
« Mon garçon, je crois que nous en aurons besoin. »
Loyal se retourna juste à temps pour attraper la longue hache que l'ancien venait de lui lancer. Les oreilles du vieil ogier étaient tout à fait aplaties. Loyal s'avisa que les siennes avaient adopté la même position.
« Prends ça, Hérite !»
dit Kovril, en s'emparant d'une des serpettes.
« S'ils réussissent à entrer, nous tenterons de les retenir au pied de l'escalier. »«
Marie, tu es mon héros !»
dit Hérite en saisissant l'arme.
« Mais si tu péris, je serai très en colère contre toi !»
À première vue, ce n'était pas une plaisanterie. Aman, à ses côtés, Loyal courut dans le couloir, puis dévala les marches en braillant à tue-tête un avertissement qui n'avait plus été entendu depuis plus de 2000 ans.
« Des Trollocs ! Hache au poing et pas de quartier ! Des Trollocs !»
« Donc je me chargerai de Théar, pendant que toi, Loghain... » Rand plissa soudain le nez. Pas parce qu'il venait vraiment de capter des relents de tas d'ordures, mais parce qu'il en avait le sentiment.
« Des créatures des ténèbres !»
dit Katsuane d'un ton égal. Sa broderie rangée, elle se leva et s'unit à la source, ce qui fit frissonner Rand. Ou était-ce à cause d'Alivia, qui se précipitait elle aussi vers les fenêtres, comme la sœur verte? Mine se leva et tira de sous ses manches deux couteaux de jet. À cet instant, à travers la pierre pourtant épaisse, Rand entendit les échos d'une voix familière.
« Des Trollocs ! Hache au poing et pas de quartier !»
Lâchant un juron, Rand se leva et courut jusqu'aux fenêtres. Dans les champs récemment semés, une multitude de Trollocs fondait sur le manoir. Des Trollocs aussi grands que des ogiers, voire plus. Des monstres porteurs de cornes de bélier ou de chèvres, arborant des gueules de loup ou d'ours, ou munis d'un bec d'aigle et de crêtes de plumes. Martelant le sol, les pieds, les sabots et les pattes, soulevaient des gerbes de boue glauque. Des myrdrals vêtus de noir galopaient derrière cette vermine, leurs manteaux ouverts ne bougeant pas au vent, comme toujours. Rand en compta une quarantaine. Et combien sur les trois autres côtés de la maison? D'autres personnes avaient entendu les cris des Trollocs, ou regardé elles aussi par la fenêtre. Soudain, des éclairs s'abattirent sur les monstres, les déchiquetant par dizaines. Par endroits, la terre s'ouvrait sous leurs pas, des explosions propulsant dans les airs des têtes, des bras et des jambes. Et bien entendu, des boules de feu faisaient des ravages. Insensibles à tout, les Trollocs continuaient à courir à la vitesse d'un cheval au galop, et peut-être plus rapidement que ça. Rand ne parvint pas à voir les tissages qui faisaient pleuvoir des éclairs. Maintenant qu'on les avait repérés, les monstres hurlaient de rage meurtrière. Dans les dépendances, des granges et des écuries au toit de chaume, des soldats de Bachéré passèrent la tête dehors et la remirent très vite à l'abri.
« Tu as dit à tes Aes Sedai qu'elles peuvent canaliser pour se défendre ?»
demanda Rand à Loghain.
« Quel crétin ne l'aurait pas fait ?»
grogna l'ancien faux dragon. À une autre fenêtre, il était déjà connecté à la source, maniant presque autant de Saïdine que Rand pouvait en puiser.
« Tu as l'intention de participer, seigneur dragon, ou juste de profiter du spectacle ?»
En matière de sarcasme, Loghain poussait un peu loin le bouchon, mais ce n'était pas le moment d'en débattre. Inspirant à fond, Rand agrippa les montants de la fenêtre, pour se retenir quand viendraient les vertiges, et les têtes de dragon tatouées sur le dos de ses mains semblèrent frémir de rage. Dès que le Saïdin se déversa en lui, sa tête tourna follement, mélange de flammes glacées et de montagnes qui s'écroulent. Ce chaos tenta de l'ensevelir, mais il résista. Un raz-de-marée de Saïdin, oui, mais parfaitement purifié. Même dans le feu de l'action, Rand s'en émerveilla encore. Pourtant, sa tête tournait, et il avait envie de vomir. L'étrange malaise aurait dû disparaître avec la souillure, mais il n'en était rien. Là, s'il serrait plus fort l'encadrement de la fenêtre, ce n'était pas à cause de ça. Le pouvoir de l'unique coulait en lui, certes, mais profitant de son moment de faiblesse, Loustérine en avait pris le contrôle. Pétrifié d'horreur, Rand regarda les Trollocs et les Myrdraal qui fondaient déjà sur les dépendances. Avec tant de pouvoir en lui, il distinguait les petites broches fixées aux lourdes cottes de mailles des monstres. Le tourbillon argenté, emblème des Half-Freights. Le trident rouge sang des Kobals. L'éclair fourchu des Grimlands. La hache crochue des Algols. Le point de fer des Daimons. La main sanglante des Gnomons. Plus toute une série de crânes. Le crâne cornu des Davols. Les piles de têtes de mort des Gargaels. Le crâne fendu par un cimeter des Jinnens. Celui des Banshees transpercé par une dague. Pour autant qu'ils aiment quelque chose, les Trollocs adoraient leur crâne. Ce soir, les principales meutes semblaient impliquées, plus quelques bandes secondaires. Rand vit même des broches qu'il ne reconnut pas. Un œil écarquillé, une main transpercée par un couteau, une silhouette humaine entourée de flammes. Les monstres approchaient des dépendances. Pour tenter de s'enfuir, les hommes de Bachéré éventraient à coups d'épée les toits de chaume. Évasion par le haut. Mais le chaume était résistant, et ces malheureux n'étaient pas au bout de leur peine. Décidément, on pensait de drôles de choses quand un fou furieux acharné à mourir risquait de vous tuer à chaque seconde. Des flux d'air firent exploser la fenêtre devant Rand.
« Mes mains !»
pensa Loustérine, alors que des éclats de verre et des échardes de bois volaient partout.
« Pourquoi ne puis-je pas bouger les mains? Il faut que je les lève !»
Un mélange de terre, d'air et de feu généra un tissage que Rand ne connaissait pas. 6 exemplaires du même, en fait, simultanément. Dès qu'il vit plus nettement le tissage, le jeune homme sut de quoi il s'agissait. Des fleurs de feu. 6 entailles verticales rouges apparurent dans l'air parmi les trolloques. 10 pieds de haut, mais plus fines que l'avant-bras de Rand. Les monstres les plus proches capteraient un gémissement strident, mais, sauf s'il leur restait des souvenirs de la guerre des ténèbres, ils ne sauraient pas qu'ils entendaient chanter la mort. Dès que Loustérine eut tissé son dernier fil d'air, les fleurs de feu s'épanouirent. Avec un rugissement qui fit trembler le manoir sur ses fondations, chaque entaille devint un cercle de flammes de 30 pas de diamètre. Des têtes cornues et des museaux volèrent dans les airs, valsant avec des bras, des jambes, des pieds bottés, des pattes et des sabots. 100 pas à la ronde de l'explosion, tous les trolloques tombèrent comme des quilles, et très peu se relevèrent. Avant d'avoir achevé ses tissages, Loustérine en généra 6 nouveaux. Un flux d'esprit mêlé de feu pour commencer. En principe, ça annonçait l'ouverture d'un portail, mais le spectre ajouta une touche d'air. 6 barres verticales bleues argentées familières apparurent dehors, non loin du manoir, sur un terrain que Rand connaissait bien. Elles commencèrent à tourner, mais ne s'ouvrirent pas vraiment, formant seulement 6 issues obscures de 12 pieds sur 12. Puis elles recommencèrent à tourner sur elles-mêmes, s'étrécissant et s'élargissant sans cesse. Enfin, elles fondirent sur les trolloques. Des portails? Oui, en un sens, mais pas vraiment. Des portes ouvertes sur la mort, plutôt. Dès que ces portes de la mort se mirent en mouvement, Loustérine noua son tissage, si lâchement qu'il faudrait seulement quelques minutes avant que le lien se dissipe, permettant aux portes de retourner à leur point de départ, puis de remonter à l'assaut. D'autres fleurs de feu déchiquetèrent des trolloques, un simple avant-goût des ravages des portes de la mort qui les réduisirent en bouillie. Ce n'était pas seulement l'effet de cisailles des entailles qui s'ouvraient et se fermaient. Là où passait une porte de la mort, il ne restait plus l'ombre d'un trolloque, tout simplement.
« Mes mains !»
hurla le spectre dément.
« Mes mains !»
Lentement, Rand leva les bras et les tendit. Aussitôt, Loustérine se lança dans une série de tissages où se mêlaient le feu et la terre. Des filaments rouges jaillirent du bout des doigts de Rand, par groupes de 10, qui se déployèrent aussitôt en éventail. Des flèches de feu. Rand connaissait ses armes. Dès que les précédentes disparaissaient, de nouvelles les remplaçaient, semblant s'éteindre alors qu'elles fusaient en réalité vers les attaquants. Les trolloques touchés se contorsionnaient, les chairs et le sang chauffaient bien au-delà du point d'ébullition de l'eau. Alors que les étranges projectiles les traversaient de part en part, ils s'écroulaient. Leur agonie trop brève pour qu'ils puissent en mesurer l'horreur. Souvent, une seule flèche réussissait à transpercer 2 ou 3 monstres avant de s'éteindre. Les mains de Rand bougeaient, créant lentement un cercle de mort qui agissait comme une faux. D'autres fleurs de feu apparurent, pâtissées par le dément, puis des portes de la mort plus petites que les siennes. Enfin, des flèches de feu jaillirent, sûrement tissées elles aussi par Loghain. Les autres achamans se concentraient intensément, mais peu d'entre eux étaient placés de façon à voir les 2 derniers tissages. Foudroyés par des éclairs, carbonisés par des boules de feu et des fleurs de feu, déchiquetés par des portes de la mort et transpercés par des flèches de feu, les trolloques tombaient par centaines, non, par milliers. Pourtant, les survivants chargeaient toujours, leurs armes brandies. Les Myrdraal les suivaient, une épée à lame noire au poing. Quand la horde eut atteint les dépendances, une partie des trolloques encerclèrent les bâtiments. Tentant de défoncer les portes à coups de poing, ils s'attaquèrent aussi aux planches des façades avec leurs épées et leurs lances, et jetèrent des torches sur les toits de chaume. Postés sur ces mêmes toits, des soldats de Bachéré tiraient avec leurs arbalètes de cavalerie et flanquaient des coups de pied dans les torches. Hélas, certaines restèrent en équilibre au bord des toits et parvinrent à embraser le chaume pourtant mouillé.
« Les feux !»
cria Rand à Loustérine.
« Ces soldats vont brûler ! Fais quelque chose !»
Sans répondre, le spectre continua à tisser des portes de la mort et des flèches de feu et les projeta sur les trolloques. Transpercé par 12 de projectiles, un Myrdraal tomba de selle. Un autre subit le même sort, et un troisième eut la tête arrachée par une flèche de feu. Mais ce blafard-là continua à chevaucher en agitant sa lame, comme s'il n'avait pas compris qu'il était mort. Rand tenta de repérer les Myrdraal. S'ils mouraient tous, les trolloques se débanderaient peut-être. Désormais, Loustérine se limitait aux portes de la mort et aux flèches de feu. Pour qu'on puisse utiliser des fleurs, les monstres étaient désormais trop près du manoir. Apparemment, certains achamans ne l'avaient pas compris. Et la demeure tremblait de plus en plus sur ses fondations. Comme si une masse géante la martelait de coups, elle paraissait sur le point de s'écrouler. Soudain, il n'y eut plus d'explosion, sauf celle des boules de feu, beaucoup moins violentes. En revanche, des éclairs se déversaient du ciel, s'écrasant si près du manoir que Rand en eut des frissons glacés. Un groupe de Trollocs réussit à défoncer les portes d'une grange et se rua à l'intérieur. Rand déplaça ses mains et les monstres qui étaient encore hors du bâtiment tombèrent comme des quilles. Ceux qui étaient dedans, les soldats devraient se débrouiller avec. Une autre grange et une écurie brûlaient. Sur le toit, les hommes tiraient en toussant comme des perdus.
« Loustérine, écoute-moi! Tu dois faire quelque chose contre ces incendies !»
Sans répondre, le spectre continua à massacrer les assaillants.
« Loghain !»
cria Rand.
« Éteins ces maudits feux !»
L'ancien faux dragon ne répondit pas, mais Rand vit jaillir de ses mains des tissages qui extirpèrent toute chaleur des flammes, les condamnant à mourir. En un éclair, elles se volatilisèrent, laissant comme seule trace de leur passage du chaume roussi d'où ne s'élevait plus de fumée. La mort éclaircissait les rangs des Trollocs, mais ils étaient si près à présent que même les boules de feu ébranlaient le manoir. Soudain, un Myrdraal à pied se dressa à côté de la fenêtre, son visage blême et sans yeux aussi impassible que celui d'une Aes Sedai. Alors qu'il armait son bras pour abattre sur Rand sa lame noire, deux lances à guêle lui transpercèrent le torse et un couteau se ficha dans sa gorge. Chancelant à peine, le blafard abattit son bras. Rand serra les doigts. Juste avant que la lame le touche, une centaine de flèches de feu percutèrent le monstre, l'envoyant valser à 20 pas de là, où il entreprit de se vider de son sang. Si les Myrdraal crevaient rarement d'un coup, celui-là ne fit pas un pli. Rand chercha d'autres cibles, mais il découvrit que Loustérine ne canalisait plus le pouvoir. Sa chair de poule lui indiqua que Katsuane et Alivia étaient toujours unis à la source, et il sentit que Loghain était gorgé de pouvoir. Mais comme Loustérine, il ne canalisait plus. Dehors, le sol était couvert de cadavres et de membres épars. Un charnier, qui s'étendait de l'orée de la forêt jusqu'au mur du manoir, à une poignée de pas près. Quelques chevaux sans cavalier erraient dans ce champ de désolation, l'un d'eux transportant une jambe dont le pied était coincé dans un étrier. Un Myrdraal sans tête s'écoulerait bientôt, et quelques Trollocs tentaient en vain de se relever.
« C'est fini, » pensa Rand.
« Loustérine, tu peux te couper de la source. »
Arilin et Enaïla étaient debout sur la table, lance au poing et voile remontée. Un couteau dans chaque main, Mine se tenait à leur côté. Le lien charriait des torrents de peur. Pas pour la jeune femme elle-même, pour son compagnon. Les Aiel et Mine venaient de lui sauver la vie. À présent, il allait devoir s'en charger lui-même.
« C'était très chaud, » souffla Loghain. « Si ça s'était passé avant mon arrivée, très chaud, oui. »
Il s'ébroua, se coupa du Saïdin et se détourna de sa fenêtre, elle aussi explosée.
« Tu comptais garder ces nouveaux tissages pour tes favoris, par exemple Taïm ?»«
Ces portails mortels. Où ont-ils envoyé les Trollocs ?»«
Je me suis contenté de copier ton tissage. On se fiche d'où ça les a envoyés, »
fit distraitement Rand. Son attention restait rivée sur Loustérine. Le démon puisait toujours du pouvoir.
« Ne joue pas à ça, mon vieux. »
Les créatures des ténèbres crèvent quand elles traversent un portail.
« Je veux mourir, » dit Loustérine, « pour rejoindre Ilyena. »
« Si tu dis vrai, pourquoi avoir massacré les Trollocs et achevé le dernier Myrdraal ?»« Un peu partout, les gens trouveront des cadavres de Trollocs et de Myrdraal sans aucune marque sur eux. »«
Je crois me rappeler ma mort, » souffla Loustérine. « Je me souviens de ce que j'ai fait pour crever. »
Le spectre puisa plus de pouvoir. Dans son crâne, Rand sentit naître une étrange douleur.
« Mais ce sera très peu de corps au même endroit. La destination change chaque fois qu'une porte de la mort s'ouvre. »
Rand se massa les tempes. Cette douleur était un avertissement. On approchait du volume de Saïdin qu'il pouvait absorber sans risquer de périr ou d'être carbonisé.
« Loustérine, tu ne peux pas mourir maintenant. Si nous sommes absents lors de Tarmon Gaidon, c'est le monde qui mourra. »«
Une porte de la mort, » fit Loghain révulsé. « Pourquoi es-tu toujours connecté au pouvoir ?» Avec tant de Saïdin en toi. Si tu veux me montrer que tu es plus fort que moi, je le sais déjà. J'ai vu la largeur de tes portes comparée aux miennes. Et je crois que tu n'es pas loin de te carboniser. »
Cette phrase attira l'attention de tout le monde. Rengainant ses couteaux, Mine sauta de la table. Dans le lien, la peur tourna à la panique. Arilin et Enaïla échangèrent un regard inquiet, puis elles reprirent leur surveillance via ce qui restait des fenêtres. Avec les Trollocs morts, elles demeuraient très méfiantes, tant que leur charogne n'était pas enterrée depuis 3 jours. Alivia fit un pas en direction de Rand, puis elle secoua la tête et se tourna de nouveau vers sa fenêtre. Mais elle resta pensive. Katsuane traversa la salle d'un pas léger.
« Qu'éprouve-t-il »
demanda-t-elle à Mine.
« N'essaie pas de m'abuser, ma fille. Tu sais ce que ça coûte. Il t'a lié. Ce n'est pas un secret pour moi, et tu dois t'en douter. Rand a-t-il peur ?»«
Il n'a jamais peur, » répondit Mine.
« Sauf pour moi et... »
Elle serra les dents et croisa les bras, défiant la sœur verte de mettre ses menaces à exécution. Dans le lien, il fut évident qu'elle savait ce qui arriverait. Les menaces de la légende, ce n'était pas rien.
« Je suis devant toi, »
dit Rand à Katsuane.
Si tu veux savoir ce que j'éprouve, pose-moi la question.
Loustérine ? Appela-t-il mentalement. Pas de réponse. Mais la quantité de Saïdine ne diminuait toujours pas.
Je t'écoute,
grogna Katsuane, à bout de patience.
Je me sens en pleine forme, mais j'ai une règle pour toi, Katsuane Sedai. Ne menace plus jamais Mine. Mieux encore, fiche-lui la paix en toutes circonstances.
Eh bien, le garçon montre les dents, on dirait.
Katsuane hocha la tête, faisant osciller les ornements d'or de ses cheveux.
N'en montre quand même pas trop, petit. Et à ta place, je demanderai à la jeune dame si elle veut de ta protection.
Bizarrement, c'était Rand que Mine foudroyait à présent du regard. Depuis le début, elle n'aimait pas qu'il s'inquiète pour elle. Et voilà qu'elle prétendait faire face seule à la légende, un défi que Rand lui-même n'aurait pas voulu relever.
« Nous mourrons après l'ultime bataille »,
dit soudain Loustérine. En un clin d'œil, le pouvoir reflua et abandonna Rand.
« Il s'est coupé du Saïdine »,
annonça Loghain, croyant parler de Rand.
« Je sais »,
dit Katsuane. L'ancien faux dragon en sursauta de surprise.
« Si ça lui chante »,
dit Rand en se dirigeant vers la porte.
« Mine peut affronter selon tes règles, mais ne la menace pas. »
« Oui, Loustérine, nous mourrons après Tarmon Gaïdon. »